Bienvenue à la 16e édition de Litteramour avec Sigrid Brinkmann. Cet épisode est dédié à l'écrivain Gregor Zander. Il nous arrive de nous croiser le soir à la radio, à la maison de Deutschlandfunk Kultur. Je suis alors assise dans un coin de l'immense salle d'information et prépare ma présentation de l'émission Fazit. Gregor est assis en diagonale, à quelques mètres de moi, et lit les feuilletons du lendemain. Il crée un texte à base de citations et parfois de thèses provocantes. Je pense que cette forme semi-journalistique lui plaît. C'est un petit exercice de style. Avec son dernier roman, Lenin auf Schalke, paru en mars 2022, Gregor Zander prouve à nouveau son talent naturel de raconter des histoires. Nous avons affaire avec trois amis qui ont grandi à Schwerin, petite ville proche de la mer Baltique. Depuis 25 ans, ils vivent à Berlin et se retrouvent une fois par mois pour jouer au billard et au foot. Il s'agit de Schlüppi, la culotte, qui a su s'en sortir de la RDA, mais n'est jamais arrivé en RFA. Il y a le docteur, qui dirige une clinique à Berlin-Moabit, et Gregor Zander, écrivain. Schlüppi veut que Gregor aille à Gelsenkirchen. Parce qu'après la chute du mur, tant d'habitants de l'Est ont parlé à tort et à travers dès que quelqu'un leur tendait un microphone, Gregor doit maintenant remettre de l'ordre dans la ville la plus pauvre d'Allemagne. Schlüppi la culotte exige que l'ami manifeste de l'incompréhension face à la misère faite maison dans la Ruhr, ancienne région mineure, et qu'il agisse avec arrogance. Schlüppi est la force motrice de toute l'entreprise.
Ja, der Schlüppi, den lieben alle irgendwie. Ich muss ständig erklären, ob es den gibt oder ob es den nicht gibt. Und auch manchmal, wenn ich in Berlin lese, auch ob er da ist oder ob er nicht da ist.
Und dann Schlüppi, la culotte, tout le monde l'aime en quelque sorte. Je dois sans cesse expliquer s'il existe ou non. Et parfois aussi, quand je lis à Berlin, s'il est là dans le public. Mais je laisse cela en suspens, car je ne veux pas expliquer ce qui est réel ou non. Je joue. Et je me dis toujours que si l'on fait le tri, on perd de la magie. Mais Schlüppi, la culotte, est un personnage important, car c'est lui qui donne pour ainsi dire l'ordre de marche, celui qui indique la direction à suivre, et celui qui est en fait beaucoup plus extrême que l'auteur Gregor Zander. Plus extrême aussi que ce personnage de fiction, qui est quelqu'un qui regarde et qui préfère observer, qui n'est pas sûr de lui et qui ne sait pas vraiment comment il doit traiter tout cela. Schlüppi a une vision claire et formule une mission précise. Plus tard, il va visiter son ami Gregor à Gelsenkirchen, et puis il pousse Gregor à mettre ses pieds dans des endroits peu engageants.
Il treibt da eben auch nochmal direkt vor Ort an und bringt die Geschichte. Ist aber auch ganz wichtig, glaube ich, für die Geschichte rein technisch, um die Geschichte quasi in Bewegung zu halten.
Pendant l'été 2020, Gregor Zander est parti pour trois mois à Gelsenkirchen. Dehors, devant la gare, il voit des jeunes hommes en short et en énorme basket. Tous fument. Non loin, trois vieilles femmes au look de babouchka, assises par terre. Foulard coloré, chemisier blanc, jupe noire, un gobelet en plastique vide devant elles. Il finit par trouver Gabi, appelée Zonen-Gabi. Le mot « Zone » désignait la zone est de l'Allemagne, donc la RDA. Ceux qui parlaient de la « Zone » voulaient surtout rappeler que la République démocratique d'Allemagne était un état satellite de l'Union soviétique. La « Zonen-Gabi » est donc un personnage important. Dans le roman, elle figure comme la cousine de Schlüppi la culotte. On a tous vu le portrait de la « Zonen-Gabi » sur la couverture du magazine satirique « Titanic ». Elle portait un veste en jean, ses cheveux étaient ridiculement frisés, elle avait un concombre épluché à la main au lieu d'une banane, des larmes aux yeux, le bonheur de Zonen-Gabi. La femme qui avait posé sur la photo était ouest-allemande. À l'époque, elle travaillait comme assistante médicale à Worms dans le sud-ouest. Elle avait rencontré un ami rédacteur de Titanic dans son bar préféré et avait fait la séance photo avec lui. Dans le roman, le personnage s'appelle Gabriele Wolinski. Elle est née en RDA. Soudain, le personnage que tant de gens ont sous les yeux prend une autre identité. Le narrateur Gregor passe la nuit chez Gabi et son ami Ömer. Ömer est propriétaire d'un kiosque et ne peut absolument pas retenir le nom de Grégoire. Il l'appelle Kevin. Quoi de plus ridicule?
Genau, also auch da werde ich immer wieder gefragt, ob ich bei ihr gewohnt werde. Und ich freue mich, ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich dazu befragt werde. Und jetzt hast du die eigentliche Geschichte von ihr gerade erzählt. Und ja, ich habe natürlich viel darüber nachgedacht, wie machst du das? Also wie beschreibst du die Geschichte? Wie erzählst du die Geschichte? Was kommt rein, was kommt nicht rein? Und dann kam ich irgendwann auf diese Zungabi und Zungabi im Glück in Klammern BAD, zu dem ja Gelsenkirchen gehört. Gelsenkirchen
ist. Exactement. On me demande régulièrement si j'ai habité chez elle. Et pour être honnête, je me réjouis à chaque fois qu'on m'interroge à ce sujet. Maintenant, tu viens de résumer l'histoire réelle de la Gabi. Et oui, j'y ai beaucoup réfléchi. Comment vais-je la décrire? Et puis, à un moment donné, j'en suis venu à cette Zonengabi en joie. Entre parenthèses, BRD, République fédérale d'Allemagne. Pendant 30 ans, nous avons ri d'elle. Bien sûr, c'était une idée drôle, mais il y avait aussi une manière de se moquer d'elle, et cela a un goût amer. Et puis, je me suis dit, sors-la de cette couverture et fais d'elle un personnage. Lors des lectures et d'après les réactions de lecteurs, je remarque qu'elle n'est pas seulement une image que l'on regarde, et le personnage est une femme. C'est aussi une idée avec laquelle je joue dans mon livre. Est-ce qu'un Zonen Mirko sur la couverture de 1989 aurait fonctionné de la même manière? Aurait-on ri de lui de la même façon? On se promène, Zonengabi, son mec et moi. Ça, je ne l'ai pas fait avec un sérieux aussi profond depuis des années, mais Gabi pense que les mineurs aiment beaucoup faire ça. Ils ont une relation étroite avec leur ville et la nature qui s'y trouve. Nous marchons côte à côte, et je suis déjà content que nous ne nous tenions pas par la main comme les pionniers ou les scouts. Gabi et Ömer, c'est le nom de son mec, habitent dans l'une des anciennes maisons de mineurs du Flotsdikebank. C'est un nom de rue. Autrefois, il s'agissait d'une couche de charbon épaisse, à 1000 mètres de profondeur, bien sûr, mais personne ne s'en souvient ici. C'était il y a trop longtemps. La rue adjacente s'appelle Floss Sonnenschein, ce qui soulève vraiment des questions, car le soleil n'a pas dû briller là-dessous. Hier, Gabi m'a fait sortir par l'arrière de la gare, dans une rue qui semblait n'être faite que de pierre et de béton. J'ai compté 7 kebabs, 4 casinos et au moins 5 buvettes, comme on appelle les kiosques ici dans la Ruhr, mais que tout le monde appelle des Büchen. Le dernier restaurant arabe s'appelait Porte de Damas et, comme à Jérusalem, un nouveau quartier s'y rattache, car la large rue suivante sépare Gelsenkirchen Neustadt d'Ukendorf, la maison de Gabi et Ömer. Ah, Ukendorf est tellement beau, disait Gabi hier. Tout commence par un parallélépipède en béton moderne à briques jaunes qui habite le tribunal local. Le palais de justice, Gabi l'a appelé ainsi, sans ironie aucune. Il ressemble aussi au palais présidentiel du Kazakhstan. De l'autre côté de la Bochumerstrasse, qui nous mène à Ukendorf, se trouve une petite maison avec une pharmacie vide au rez-de-chaussée. Elle s'appelait autrefois Engel, ce qui est bien sûr doublement poétique pour une pharmacie abandonnée. Faire faillite avec une pharmacie, il faut le faire. Ömer nous conduit maintenant sur un étroit chemin goudronné, bordé à gauche et à droite d'arbres, d'orties et de ronces. Des personnes en vêtements fonctionnels le parcourent dans les deux sens. Autrefois, un petit chemin de fer d'usine menait des Seines au tracé du chemin de fer du minerai qui menait à son tour à Bochum. Aujourd'hui, on ne voit plus rien de tout cela, sauf Günther et Hildegard sur leur VTT, qui ont presque la même silhouette et la même coiffure. Des gens de la classe compacte, en short de cycliste noir et chemise rose. Sauf que lui porte une moustache grise entre le casque et le menton et lui crie par-dessus le guidon, faisant une pause devant le petit kiosque. Elle lui répond « Ouais !» et en un sifflement, il nous dépasse.
Mm-hmm. das habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich die Geschichte, wie erzähle ich die Geschichte und dass die Geschichte mit Humor und Ironie erzählt werden muss, das war ziemlich schnell klar, weil sonst wäre das eine so traurige Geschichte geworden, das hätte man auch erzählen können über Gelsenkirchen, ohne große Mühe, ehrlich gesagt.
J'ai vite compris qu'il fallait de l'ironie, parce que sinon ça aurait été une histoire triste à mourir. On aurait pu la raconter ainsi, sans grand effort, mais ça n'aurait pas été mon histoire. Je ne me suis pas senti autorisé à le faire. J'ai passé 3 mois à Gelsenkirchen. C'était une période à la fois longue et courte. J'ai appris beaucoup de choses, mais je n'ai pas creusé aussi profondément qu'un sociologue. Je me suis dit que j'allais le faire avec humour. On me dit souvent que, de temps en temps, le rire nous reste en travers de la gorge. C'est voulu. L'histoire de Gelsenkirchen ne s'enrichira pas si nous n'en rions pas. C'était précieux pour moi, parce qu'on a beaucoup ri pendant la lecture et parce que les gens se sont reconnus. Ils ont reconnu leur ville, mais ils se sont aussi reconnus eux-mêmes.
C'est un schöner Moment, weil da eben auch auf der Lesung reichlich gelacht wurde und die Leute sich wiedererkannt haben, ihre Stadt wiedererkannt haben, aber auch sich selber.
Gelsenkirchen est la ville la plus pauvre d'Allemagne, désertée, abandonnée. Il y a des buvettes, des kiosques, des kebabs, mais peu de pouvoir d'achat. On se connaît, les gens restent parce que le voisinage compte beaucoup pour eux. C'est vrai à l'ouest comme à l'est, où les gens n'ont pas quitté les régions polluées et exploitées industriellement. Ils y ont tout simplement passé leur vie. Peut-être ne pouvaient-ils pas travailler et vivre ailleurs, et on ne devrait pas juger cet attachement. Dans une scène du roman, les protagonistes montent sur une décharge de déchets miniers. Ils aiment la vue. Le narrateur, lui, ne voit qu'une immensité vide. Finalement, c'est touchant. Les gens se contentent de si peu.
Ja, das ist genau so. Und das ist auch wirklich, das kann man ganz schwer bewerten. Und dafür ist der Ort natürlich auch, Gelsenkirchen ist eine Stadt, in der seit 150 Jahren immer wieder Menschen von außen dazukommen, ganz massiv. Es gibt ganz wesige, ganz
oui, c'est vrai. Gelsenkirchen est une ville où, depuis 150 ans, des gens viennent d'ailleurs en très grand nombre. Il n'y a pas de famille noble originaire de Gelsenkirchen. Les gens y sont arrivés pour travailler dans les mines et aujourd'hui, ils viennent pour d'autres raisons. Par exemple, parce qu'on y trouve facilement un logement pas cher. Il y a beaucoup d'appartements vides parce que les gens cherchent à faire leur vie ailleurs. J'ai parlé avec un jeune homme qui avait fui l'Irak. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Je ne l'ai pas rapporté dans mon livre. À un moment donné, il a dit « Je trouve Gelsenkirchen magnifique ». Et là, je me suis tu. Parce que qu'est-ce que je peux dire ? Gelsenkirchen est devenu son chez-soi. Il y vit depuis plusieurs années et il attendait son permis de séjour permanent. Il avait 20 ans, il était en formation et c'est dans cette ville pauvre qu'il passera peut-être sa vie. Gelsenkirchen sera sa Heimat, sa patrie, et plus tard peut-être celle de ses enfants. C'est ainsi que l'on devient aujourd'hui un habitant de Gelsenkirchen. Des gens venant ou ayant des racines dans 130 pays différents y vivent. Et c'est pourquoi le personnage d'Homer, avec qui Ladson Ngabi vit dans une ancienne maison de mineur, est pour moi extrêmement important, car je trouve que la région de la Ruhr est encore bien blanche. Et ça ne marche pas. Si tu te balades un peu, tu te rends compte qu'il faut un protagoniste qui a des racines turques. Homer est allemand, mais son père est né en Turquie.
Ça ne fonctionne pas si tu te balades un peu, tu te rends compte que da wollte ich eine wichtige Figur haben, die eben türkische Wurzeln hat. Ömer ist Deutscher, aber sein Vater ist in der Türkei geboren.
Ce que tu montres, c'est que la pauvreté à Gelsenkirchen n'a rien à voir avec le programme de reconstruction à l'Est. L'Ouest est seul responsable du déclin dans une partie de la Ruhr. Même les grands blocs de logements préfabriqués y existaient avant qu'ils n'aient été bâtis en grand nombre en RDA. J'ai apprécié que tu mentionnes qu'Andreas Dresen est tourné dans la région de la Ruhr pour son film sur Gundermann, conducteur de pelleteuse est-allemand et chanteur très connu. À l'origine, son histoire se déroule dans un bassin huilié de la Lausitz. Ou encore le regard porté sur Sophie Passmann, une jeune journaliste qui a publié un livre à succès sur les vieux hommes blonds. Dans ses recherches, aucun homme de l'Est n'apparaît.
Als ich alte weiße Männer gelesen habe, ist selbst mir nicht aufgefallen, dass die alle aus dem Westen sind, diese.
Lorsque j'ai lu le livre des hommes vieux et blancs, je n'ai pas du tout remarqué qu'ils venaient tous de l'Ouest, ces vieux hommes blancs. Et c'est seulement quand j'avais déjà largement dépassé la moitié, que je me suis dit, tiens, pourquoi n'y a-t-il pas de Frank Gastorf, chef de la Volksbühne à Berlin, et pas de Joachim Gauck, président de la République? Pourquoi ne les a-t-elle pas interviewés? Cela révèle pourtant quelque chose sur les rapports de force que Sophie Passmann n'ait pas pensé d'inclure un homme de l'Est, comme on le fait désormais pour les ministres. Nous avons deux femmes ministres dans le nouveau gouvernement, elles viennent d'Allemagne de l'Est. Mais disons au deuxième rang, dans l'équipe des chefs de cabinet, il y en a 133. Seulement 4 fonctionnaires viennent de l'Est. Cela montre bien comment les rapports de force sont structurés. Et bien sûr, je voulais aussi raconter ce genre de choses. Quand je suis allé à Gelsenkirchen, je ne savais pas du tout combien de l'Est je voulais apporter. Quand une sculpture de Lénine fut effectivement érigée à Gelsenkirchen, je pouvais bien sûr m'appuyer sur mes propres expériences avec Lénine et y ajouter de belles histoires. Et c'est ainsi que les expériences et les perspectives se mélangent.
L'érection d'une statue de Lénine dans un quartier de Gelsenkirchen est un de ces moments chanceux pour un narrateur. La statue a été récupérée en République tchèque dans une casse. Le parti marxiste-léniniste d'Allemagne a financé son achat grâce à des dons et a organisé une fête. C'est magnifiquement observé.
Cela a définitivement fait pencher la balance en faveur de Gelsenkirchen. J'aurais aussi pu choisir Duisburg ou Herne. J'ai choisi Gelsenkirchen parce que c'est la ville la plus pauvre d'Allemagne. Après, c'est Duisburg. Je me suis demandé où aller. Mais quand ils ont installé le monument de Lénine en juin 2020, je me suis dit, OK, maintenant je n'ai plus le choix. Je dois partir à Gelsenkirchen et on pouvait jouer avec ça. Parce que la parade, ça, ils savaient l'organiser à l'Est. Quiconque a déjà vécu un 1er mai à Berlin-Est ou dans une ville de province s'en souvient. Les gens étaient amenés par milliers, par centaines de milliers, et marchaient en formation jusqu'à la manifestation finale. Et bien sûr, ce qui s'est passé à Gelsenkirchenhorst était pitoyable en comparaison, bien qu'ils aient tenté quelque chose de similaire. Et bien sûr, c'est aussi une absurdité folle, historiquement parlant. Essayer de réinstaller l'icône d'une société disparue dans une ville en perdition, c'est impossible à imaginer, je crois. La réalité a tout simplement dépassé la fiction. En tout cas, les Germains de l'Ouest n'ont aucune idée des défilés communistes. Les quelques personnes qui m'entourent donnent l'impression de participer à une fête de quartier organisée par les Verts. Avant, il y avait plus de défilés. Zonon Gabi m'a entraîné à Gelsenkirchenhorst, un quartier situé de l'autre côté du canal Rhein-Herne, qui traverse la ville en son milieu. C'est là que doit être érigé le premier monument Lénine d'Allemagne de l'Ouest. Je me suis dit qu'il était peut-être un peu tard, mais j'ai fini par y aller. Gabi voulait absolument y aller, car il lui manquait entre-temps le véritable sentiment de la RDA, dont elle vit en tant qu'indépendante et performeuse historique, comme elle se décrit elle-même. Plus d'appels au drapeau, une vie sans collecte de vieux matériaux, ni intervention de Timur. Lénine doit lui dégager la voie vers les sentiments de son passé. Ils ont emballé le tovarisch Lénine comme un bouquet de fleurs dans un tissu rouge. Celui-ci brille encore, rouge sang, et offre une riche surface d'attaque à l'ennemi de classe. « Si Lénine savait, disait-on en RDA, lorsque quelque chose n'allait pas vraiment dans le sens du socialisme. Et comme vers la fin, comme j'ai pu vivre l'état ouvrier et paysan, il n'y avait plus grand-chose qui allait dans le sens du paradis communiste, nous disions assez souvent « si Lénine savait » et on se marrait. Mais qu'il se retrouve ici, emballé comme la grande surprise d'une fête d'anniversaire d'enfant devant le siège du Parti communiste de l'Ouest, le grand théoricien du communisme ne l'a pas mérité. La ville de Gelsenkirchen a bien sûr porté plainte contre la statue. La plaisanterie s'arrête là avec Lénine, car il n'est pas considéré comme un démocrate sans faille. Mais la plainte a été rejetée, ce que les tribunaux ont justifié par le fait que l'on peut mettre ce que l'on veut dans son jardin. Lénine comme un nain de jardin du parti marxiste-léniniste d'Allemagne, en quelque sorte. 300 personnes peut-être se sont rassemblées devant l'ex-caisse d'épargne. Beaucoup de cheveux gris, d'œillets rouges épinglés et de sourires béats, mais aussi de nombreux jeunes pionniers aux cheveux colorés et en t-shirt Picasso en forme de colombe.
Inzwischen soll ein Karl Marx noch daneben stehen. Also das hat mir neulich die
Kulturamtsleiterin aus un Karl Marx devrait également être installé à côté. C'est ce que m'a écrit la directrice du service culturel de Gelsenkirchen. Je ne serais pas étonné qu'on y ajoute Friedrich Engels. Et qui sait, ils tiennent aussi beaucoup à Mao et Staline dans le parti marxiste-léniniste d'Allemagne. Je ne sais pas où est la limite, mais c'est évidemment bizarre. Et je ne voudrais pas non plus éviter le sujet de l'AfD, le Parti Alternatif für Deutschland, parce que c'est pour cela que Gelsenkirchen est aussi appelé l'Est à l'Ouest. Parce que les gens y sont pauvres et que beaucoup votent pour ce parti d'extrême droite. Et puis je me suis dit, ok, voyons comment j'intègre ce thème. Les deux premières semaines à Gelsenkirchen ont été difficiles. Je ne savais rien de rien et je me suis promené sans poser beaucoup de questions. Je me suis contenté d'observer et de penser, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça?
Am Anfang sehr viel gelaufen, ohne auch viele Fragen zu stellen, sondern habe erstmal nur geguckt und habe gedacht, okay, was machst du da jetzt hier mit? Also manchmal habe ich auch richtig fast klassische Interviews geführt, also wo ich dann auch gesagt habe, wer ich bin und was ich vorhabe und so. Und es gab aber auch Situationen, wenn was Schönes in der Kneipe zum Beispiel entstanden ist, aber auch irgendwo anders.
Oui, et parfois je faisais même des interviews classiques, c'est-à-dire où je disais qui j'étais et ce que je voulais faire. Mais je décris aussi des situations quand quelque chose de beau apparaît soudainement dans un bar ou ailleurs. Souvent, je me suis contenté de rester à côté et d'écouter, parce que ce n'était pas si important de savoir qui parlait, mais plutôt ce qui se passait. Comment les gens se comportent-ils entre eux? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être raconté? J'avais ce regard d'un étranger, cela m'a plu. Mais au début, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que tu fais avec ces gens? Et puisque nous avons parlé de l'humour, quand est-ce qu'on commence à tirer les gens par le nez dans le manège? Ce n'est pas ce que je voulais. Mais il y a quand même des situations dans le livre où j'ai dû évaluer très précisément jusqu'où je pouvais aller. Et à partir de quand te moques-tu simplement des gens?
Abwägen musste, okay, wie weit kannst du jetzt gehen und wann machst du dich einfach nur über die Leute lustig und oder wann ist es auch wirklich gut fürs Buch?
Oui, et il y a des petites scènes que tu racontes avec un grand sérieux, comme celle où tu observes un grand-père qui a son petit-fils de 3 ans avec lui. Il lui fait boire de la bière. C'est triste et c'est violent.
Genau, ja, es waren noch viel Kinder auf der Straße, sagen wir mal zu.
Exactement. Oui, c'était frappant. Il y avait encore beaucoup d'enfants dans la rue tard le soir, des enfants de 3, 4, 5 ans. Les grands frères et sœurs les gardaient. Je pensais juste, je serais content si mes enfants étaient au lit à cette heure-là, ou du moins s'ils n'étaient plus en surveillance. Cette négligence existait et je devais la décrire d'une manière ou d'une autre. Sans avoir l'air d'un professeur. Je ne voulais pas l'expliquer, ça aurait été trop. Il y a aussi des gens dont on ne peut pas s'approcher suffisamment pour expliquer leur comportement. Mais ce que l'on voit et observe, ça, on peut l'expliquer.
Dans les années 60, la ville était étonnamment ouverte à la modernité. Des artistes de premier plan comme Günther Uecker, Markus Lüpertz et Yves Klein sont venus. Ils ont créé des sculptures dans l'espace public à Gelsenkirchen. Aujourd'hui, tout cela est oublié. Dans le roman, tu suggères que la région de la Ruhr s'est divisée en 3 Länder parce qu'on avait peur de la puissance concentrée des ouvriers. Et aujourd'hui, ce serait plutôt la peur de la puissance concentrée des pauvres.
Man hat nie ein Ruhrgebiet entstehen lassen und die wirklichen Ruhrgebiet-Fans, von denen gibt es ja viele, also die sich dieses, die eben sagen, wir sind aus dem Ruhrgebiet, ne, und das so für sich definieren.
La Ruhr n'a jamais été une région unifiée. Et les vrais fans de la Ruhr, il y en a vraiment beaucoup, c'est-à-dire ceux qui se disent « nous sommes de la Ruhr ». 5 millions de personnes y vivent. Et ils souffrent aussi beaucoup du fait que même les réseaux de transport ne fonctionnent pas vraiment. Je pense que cela aurait fait du bien à la région d'en faire un tout à l'époque, sans pour autant dissoudre la structure urbaine. Et cela aurait pu rester Dortmund, Gelsenkirchen, Herne et Duisburg. Mais que l'on pense à cela comme un tout, que ce soit le transport ou l'art, cela n'a pas vraiment d'importance. Mais que l'on crée quelque chose d'entier. Maintenant, c'est trop tard, car ce qui a forgé l'identité de la Ruhr, à savoir le charbon, l'acier, fait partie du passé depuis longtemps. Et maintenant, on ne sait même plus pourquoi ces villes sont si liées. Alors, dans 50 ans, qu'en sera-t-il? Que sera devenue la région de la Ruhr? On ne peut même pas l'imaginer. Si on entre dans les détails, les gens d'ici se réfèrent tous à une localité précise. On n'est pas de Gelsenkirchen, mais on vient de Bure ou d'Ückendorf ou d'un autre quartier. Mais je pense que cette région de la Ruhr, dans son ensemble, aurait été d'une bonne idée. Je ne comprends absolument pas pourquoi c'est impossible en Rhénanie du Nord-Westphalie.
Aber ich glaube, dieses Ruhrgebiet als Ganzes, das wäre eine gute Idee gewesen. Aber warum das in NRW nicht möglich ist, ist mir absolut unklar.
Ce chant de tombe pour les joueurs et les fans du club de football Schalke 04, c'est de la fiction, non?
Ja, das ist eine meiner Lieblingsstellen, wo der Sander mit dem Schlüppi eben dahin geht und der Schlüppi sagt dann, obwohl er auf dem Friedhof steht, Sander, das gibt's nicht, das hast du dir ausgedacht.
Und, oui, c'est un de mes endroits préférés, où le narrateur Sander va avec Schlüppi la culotte. Et Schlüppi dit alors, bien qu'il se trouve dans le cimetière, Sander, ça n'existe pas, tu l'as inventé. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de recherches sur Google pour le savoir. Ce terrain où sont enterrés les supporters de Schalke existe vraiment. Et cela en dit long sur la région. Pour les fans du club Bayern München, je pense que ce ne serait pas possible qu'ils finissent dans un cimetière du Bayern München. C'est vraiment bizarre. Je me suis parfois dit, ce n'est pas possible. Il faut être sur place et passer du temps. Autant dire encore une fois, merci. Cette partie du cimetière a d'ailleurs été fondée par un Allemand d'origine turque.
Da kann ich auch nur noch mal Danke sagen. Hat übrigens auch ein türkischstämmiger Deutscher gegründet, diesen Teil des Friedhofs, ja.
En mai 2022, Grégoire Sander a été invité à l'Institut Goethe à Strasbourg et à Nancy pour y présenter Lenin auf Schalke. J'espère que ce roman sera aussi traduit en français. Kidam Éditeur a publié en 2019 la traduction du roman Was gewesen wäre. On le trouve en librairie sous le titre Retour à Budapest. J'espère que cet épisode vous a plu et que je vous retrouve bientôt pour la prochaine édition. Parmi tous les prix qui lui ont été décernés, le prix Renaudot pour Histoire du fils est le plus prestigieux. Ce livre vient d'être publié en langue allemande et j'en parlerai avec l'écrivaine Marie-Hélène Lafont. Malgré la guerre en Ukraine et d'autres conflits violents, toujours présents dans nos têtes, malgré la chaleur et les incendies aussi, signe incontestable du changement grave que subit la planète, je souhaite que vous passiez un été agréable. C'était la 16e édition de Litteramour, le podcast franco-allemand de littérature, en compagnie de Sigrid Brinkmann et de Didier Lager, la voix française de Grégoire Sander. Bien à vous et à bientôt.